Marie de Hongrie était âgée de 70 ans. Veuve du roi de Naples Charles II le Boiteux, mère de 13 enfants dont elle avait déjà vu mourir près de la moitié, elle gardait de ses maternités un bassin large et de ses deuils de longues rides qui joignaient ses paupières à sa bouche édentée. Elle était haute de taille, grise de teint, neigeuse de cheveux, avec sur toute la physionomie une expression de force, de décision, d'autorité que la vieillesse n'avait pas atténuée. Elle portait couronne en tête dès son réveil. Apparentée à toute l'Europe et revendiquant pour sa descendance le royaume de Hongrie, elle avait fini après 20 ans de lutte par l'obtenir. Maintenant que son petit-fils Charles Robert, ou Charrobert, héritier de son fils aîné Charles Martel, mort prématurément, occupait le trône de Buda, que la canonisation de son second fils, le défunt évêque de Toulouse, semblait chose assurée, que son troisième fils, Robert, régnait sur Naples et les Pouilles, que le quatrième était prince de Tarente et empereur titulaire de Constantinople, que le cinquième était duc de Durazzo, et que ses filles survivantes se trouvaient mariées l'une au roi de Majorque, l'autre à Frédéric d'Aragon, la reine Marie ne considérait pas encore sa tâche terminée. Elle s'occupait de sa petite-fille, Clémence l'orpheline, la sœur de Charrobert qu'elle avait élevée. Se tournant brusquement vers Bouville, comme un faucon de montagne repère un chapon, elle lui fit signe d'approcher. « Alors, messire, demanda-t-elle, que vous semble de cette image ?» Bouville entra en méditation devant le chevalet. Ce qu'il contemplait, c'était moins le visage de la princesse que les deux volets latéraux destinés à se rabattre pour protéger le tableau et sur lesquels Oderizzi avait peint d'une part le Macchio Angiogno et de l'autre, dans une perspective en superposition, le port et la baie de Naples. Regardant la figuration de ce paysage qu'il allait devoir incessamment quitter, Bouville éprouvait déjà de la nostalgie. « L'art m'en paraît sans reproche, dit-il enfin. Sinon que la bordure est peut-être un peu simple pour encadrer un visage si beau, ne croyez-vous pas qu'un feston doré... » Il cherchait à gagner un jour ou deux. « Il n'importe, messire, coupa la vieille reine. Trouvez-vous qu'il ressemble ?»« Oui, alors voilà l'important. L'art est objet frivole, et il m'étonnerait que le roi Louis se souciât beaucoup de guirlandes. C'est le visage qui l'intéresse, n'est-ce pas vrai ?» Elle ne mâchait pas ces mots, et à la différence de toute la cour, ne se souciait pas de dissimuler le motif de l'ambassade. Toutefois, elle congédia Oderizzi en lui disant « Votre travail est bien fait, jeune homme. Vous ferez compter votre dû par notre trésorier et maintenant retournez peindre notre église et veillez à ce que le diable y soit bien noir et les anges bien resplendissants. » Et pour se débarrasser aussi de Guccio, elle lui commanda d'aider le peintre à emporter ses pinceaux. Du même ton, elle envoya la dame de parage broder ailleurs. Puis, les témoins écartés, elle revint à Bouville. « Ainsi donc, messire, vous allez repartir pour la France. »«
Avec un infini regret, madame, car toutes les bontés qui m'ont été faites ici... »«
Mais enfin, dit-elle en l'interrompant, votre mission est accomplie, du moins presque. »
Ses yeux noirs étaient plantés dans ceux de Bouville. « Presque, madame ?»«
Je veux dire que cette affaire est réglée dans le principe, puisque le roi, mon fils et moi-même donnons accord au projet. Mais cet accord, messire... »
Elle eut un mouvement de la mâchoire qui fit saillir les tendons de son cou.
Cet accord, ne l'oubliez pas, reste à condition. Car si nous nous tenons pour très hautement honorés par les intentions du roi de France, notre cousin, si nous sommes prêts à l'aimer avec une fidélité toute chrétienne et à lui donner nombreuses descendances, car les femmes en notre famille sont fécondes, il n'en est pas moins vrai que notre réponse définitive demeure soumise à ce que votre maître soit libre de madame de Bourgogne, très promptement et très réellement. Nous ne saurions nous contenter d'une répudiation acceptée par des évêques de complaisance et que l'Église en haut lieu pourrait contester.
Nous obtiendrons l'annulation avant peu, madame, comme j'ai eu l'honneur de vous en assurer.
Messire, nous sommes entre nous, ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait.
Bouville toussota pour cacher son embarras.
Cette annulation, répondit-il, est le premier souci de monseigneur de Valois qui fera tout pour la diligenter et considère d'ores à présent la chose pour acquise.
Oui, oui, grommela la vieille reine. « Je connais, mon gendre. En parole, rien ne résiste, et ses chevaux ne se cassent point les jambes tant qu'il ne les a pas jetés dans un ravin. »
Bien que sa fille Marguerite fût morte 15 ans auparavant, et que Charles de Valois, depuis, se fût remarié 2 fois, elle continuait de l'appeler « mon gendre ».«
Il est bien entendu aussi que nous ne donnons point de terre. La France m'en paraît avoir à suffisance. Naguère, quand notre fille épousa Charles, elle lui apporta l'Anjou en dot, ce qui était gros. » Et l'autre année, quand une fille du second lit de Charles vint à s'unir à notre fils de Tarente, elle nous apporta Constantinople.
Et la vieille reine, de sa main goûteuse, eut un geste pour signifier que ce beau titre n'était que du vent.